بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، à la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre deuxième assise dans l'étude du chapitre de la purification dans le livre de Umdat al-Ahkam, avec l'interprétation du Cheikh al-Utaymin rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannatih. Fa al-hadith al-tani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث متفق عليه. Le deuxième hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous une fois qu'il a perdu ses ablutions, jusqu'à ce qu'il les refasse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il refasse son wudu. Hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Rawi al-hadith, Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu arda, أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه رضي الله عنه وارضاه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. وقال البخاري رحمه الله: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. توفي سنة 57 للهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le transmetteur du hadith ici, c'est Abu Huraira. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, radiyallahu anhu wa arda. Abu Huraira s'est converti à l'islam le jour de la bataille de Khaybar. Et il a combattu durant cette bataille. Et il était tout le temps auprès, et après, il était tout le temps auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est occupé à mémoriser le hadith du messager, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a attesté à Abu Huraira le fait d'être veillant pour le hadith. Abdullah ibn Omar a dit à Abu Huraira, radiyallahu anhu majma'in, tu es celui parmi nous qui restait souvent avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et tu es celui qui connaît plus de hadith parmi nous. Il a été rapporté la même parole du père d'Abdullah ibn Omar, qui est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda. Le Bukhari, rahimahullah, a dit, Abu Huraira a mémorisé plus de hadiths parmi ceux qui l'ont transmis de son époque, et les hommes de science relatent qu'il a transmis, radiyallahu anhu arda, 5374 hadiths du messager, alayhi salatu wassalam. Il est mort, radiyallahu anhu arda, au nom 57 de l'Hijra, à Médine, radiyallahu anhu arda. موضوع الحديث يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: بيان حكم الصلاة بدون وضوء. فلا يقبل لا يرضى الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم، أما في اللغة فهي الدعاء. أحدث وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. يتوضأ يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. والشرح الإجمالي للحديث يقول رحمه الله: للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يتيب عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc le sujet de ce hadith, le deuxième hadith dans Umd al-Ahkam, dans le livre d'Yal Tahara, c'est la clarification sur le statut de la prière sans purification, sans l'odon. C'est un hadith qui nous clarifie sur le fait de la situation du statut de la prière sans l'odon, dans lequel il est stipulé, il est dit, « La yaqbalullahu salat », Allah n'accepte pas la prière. La prière ici en langue arabe, sa définition, ça veut dire « du'a ». Au niveau de la législation, ce sont des actes et des paroles spécifiques qui commencent par « kbirat al-ihram » qui se terminent par « teslim », par « fait de dire « salam alaikum ». Il commence par « Allahu akbar kbirat al-ihram », il se termine par « et la fin c'est « at-teslim ». Le sens général du hadith dit Cheikh rahmatullah alayhi, la prière a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la plus importante et la plus noble obéissance, et c'est un meilleur acte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une liaison entre le soumis et son souverain subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est interdit au soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de se rapprocher d'Allah avec la prière sans purification, comme l'a annoncé Abu Hurayra radiyallahu anhu arda du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah n'accepte pas et ne récompense pas pour une prière sans ablution jusqu'à ce que le soumis se purifie et fasse son wudu. يقول الشيخ رحمه الله فوائد الحديث ذكر منها خمس فوائد هنا. قال أولى أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود مردود عليه. Et donc parmi les enseignements du hadith, Cheikh en a cité 5 ici. Le premier enseignement, il y a parmi les salats des salats qui seront acceptées, d'autres qui ne le seront pas. Toutes les salats qui sont conformes à la législation sont acceptées, et ceux qui ne le sont pas ne le seront pas. Pour la parole du messager alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique qui a dit, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion, il lui sera rejeté. Donc il ne sera pas accepté de lui. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dit dans sa risala qui parle de l'innovation, il dit, pour qu'un acte il soit accepté, pour qu'il soit conforme, il faut qu'il y ait 6 points dedans. Il faut qu'il émane de la législation. Son origine, il est stipulé lors de le faire dans la législation. Il faut qu'il corresponde à la quantité demandée par la législation. Il faut qu'il se fasse de la façon dont il est stipulé dans la législation. Il faut qu'il se fasse à son temps et au lieu où il est demandé. Il faut qu'il soit de la famille qui a été demandée. Hein? Ce sont ces points qui doivent être réunis dans un acte pour qu'il soit. Maintenant, prends par exemple la prière. Hein? La prière, il est légiféré. Le comment de la prière, il y a une description. Tu commences par Takbirat al-Ihram en s'orientant vers la Qibla et tu termines par Tslim. Il y a la lecture, il y a, etc. Tout en ordre. Hein? Si maintenant quelqu'un, il s'oriente vers la Qibla, mais seulement il commence par sujoud, il a complètement changé. Donc son acte n'est pas. Hein, il va plutôt être châtié au lieu d'être récompensé. Et ainsi de suite, il prend ça. Pour tous les actes, il faut qu'on y préserve. Hein, et on observe ces 6 points qui sont, hein, que les hommes de science ont cités pour qu'un acte il soit accepté min Allah Azza wa Jal, le nombre. Ah, le nombre est quelque chose d'important. L'asr, il est 4 rak'at, il ne peut pas être 3. Hein? Et quand on est en voyage, il est 2. Mais ça, c'est quelque chose qui est stipulé dans la législation. Le Mughrab, il est tout le temps 3. Il ne peut pas faire 4 ou en faire 2. Et ainsi de suite. L'heure aussi à respecter. Le pèlerinage, le jour de Ashura, c'est le 10e jour et non pas le 9e. Le jour de Arafat, c'est le 10e jour de Dhul Hijja. Ou là, le 9e, quel jour? Hein? Le 9e jour. Ah, c'est le 9e jour, ça ne peut pas être ni le 10 ni le 8. Donc le 9e, il faut être à Arafat aussi, dans l'endroit où il est. Tu ne peux pas être en dehors de Arafat, et ainsi de suite. Hein? ثانيا يقول الشيخ رحمة الله عليه أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ وكذلك الجنوب إذا صلى قبل أن يغتسل. Donc la deuxième leçon, c'est que la prière obligatoire ou surrogatoire, même la prière funéraire, la prière qu'on fait sur le mort, ne seront pas acceptés de celui qui n'a pas ses ablutions, même en cas d'oubli, jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Il en est de même que celui qui, pour celui qui est en état d'impureté majeure, c'est-à-dire qu'il y a une janaba, hein, la prière ne sera pas acceptée de lui. Il faut que, hein, il se purifie. السؤال الفائدة الثالثة أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ لأن الله لا يقبلها والتقرب إلى الله بما لا يقبل محادات له سبحانه وتعالى ونوع من الاستهزاء. Et le troisième enseignement, il est interdit à celui qui est en état d'impureté, qui n'a pas l'eau d'eau, hein, de prier jusqu'à ce qu'il se purifie. Car Allah ne l'acceptera pas. Il se rapprochera d'Allah par quelque chose qu'il n'accepte pas, c'est s'écarter de son ordre et de ce, hein, et de sa législation. Et c'est une forme de moquerie. Il a dit, rahmatullah alayh. كذلك الفائدة الرابعة أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. Et la quatrième leçon, la personne qui a fait l'wudu pour une prière et puis l'heure de la prière suivante est arrivée et qu'il n'a pas perdu l'wudu, ce n'est pas obligatoire pour lui de refaire le dos. خامسا تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. Aussi, la cinquième leçon, c'est la révérence de la prière, car Allah ne l'accepte pas sans purification. L'importance donnée à la prière dans la législation d'Allah, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte qu'avec une purification, avec la condition avec laquelle il veut subhanahu wa ta'ala. Le hadith al-thalith, an Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Huraira wa Aisha radiyallahu anhum ajma'in, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal waylul lil aqab min an-nar. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Le troisième hadith, hadith d'Abd Allah ibn Amr ibn al-As, et d'Abu Huraira, et d'Aisha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, malheur à ceux qui n'ont pas correctement lavé leurs talons pendant les ablutions. Ils seront châtiés par le feu de l'enfer ainsi que leurs talons. C'est-à-dire malheur à tout un chacun. Donc le châtiment est pour tout un chacun qui a laissé une partie d'un membre qui doit être lavé dans le dos. Là, il a donné l'exemple avec les talons. Parce que ça, c'est souvent ce qui arrive. La personne met son pied sur le bord de la place où il fait le dos, il oublie le talon derrière. Hein? Il hadith, il a des causes pourquoi le prophète alayhi salam il l'a dit, nous allons le voir à la fin. Mais cela ne veut pas dire tout simplement les talons. Tous les membres qui doivent être lavés doivent être complètement lavés comme il a été dit. Si la personne maintenant dans le coude, souvent ce qui nous arrive, hein, ce qui arrive à beaucoup qui s'habillent, beaucoup qui ont beaucoup de pulsions parce qu'il fait trop froid, etc. Hein, souvent ils n'arrivent pas, c'est trop serré, ils n'arrivent pas à remonter les manches de leur vêtements au-delà de leur coude. Ce qui fait que des fois, le coude, il n'est pas rentré dans leur lavage. Ce qui veut dire qu'il y a une partie qui n'a pas été lavée. Ce qui veut dire que l'odo n'a pas eu lieu. Et si l'odo n'a pas eu lieu, qu'est-ce qui arrive? La prière n'a pas eu lieu non plus. Rouatul Hadith, Abdullah ibn Amr ibn As, ibn Wa'il al-Qurashi, al-Sahmi, radiyallahu anhu, kana katir al-ibada, hafidha li ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, لم تكتر الرواية عنه لماذا؟ كما كترت عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان منقطعا للعبادة رضي الله عنه وارضاه. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63. ليالي الحرة أي عندما خرج من خرج مع عبد الله بن مطيع على يزيد بن معاوية، وكان قتال في المدينة، لذلك سميت بأيام الحرة ووقعت الحرة في المدينة. Et donc parmi les transmetteurs de ce hadith il y a عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. C'est un homme qui était un grand adorateur, un dévot. Beaucoup d'adoration, رضي الله عنه وارضاه. Il a mémorisé beaucoup de hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais il y a mais il n'y a pas beaucoup de transmission de hadith de Amr ibn al-As comme Abu Huraira, car Amr ibn al-As s'occupait de l'adoration radiyallahu anhu arda. Les historiens ont divergé sur sa mort, quand il a eu lieu et où. L'imam Ahmad rahimahullah, il a été rapporté de l'imam Ahmad qu'il serait mort, que Amr ibn al-As serait mort en l'an 63, pendant les événements de l'Harra. L'Harra, c'est la révolte qu'il y a eu de la part des Médinois contre Yazid ibn Muawiya. Et celui qui commandait cette révolte, c'était Abdullah ibn Mutri'a. Hein? Il y a eu beaucoup de morts. Et il faut savoir que les nobles compagnons ne sont pas rentrés dans cette, hein, dans cette révolte. Hein? رضوان الله عليهم اجمعين. والراوي الثاني ابو هريره، سبقت هذا، سبقت ترجمته في الحديث الثاني. والراوي الثالث عائشه ام المؤمنين بنت ابي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن ابيها، ولدت في الاسلام رضي الله عنها وارضاها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد موت خديجه وقبل زواجه بسودة، وهي ابنة ست سنين، عقد عليها وهي ابنة ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام. لماذا؟ لأن التريد سهل في الهضم ولذيذ ويقوي و و و و، وهي كانت راجحة العقل، ذات ذكاء، ذات خلق، ذات فضل رضي الله عنها وارضاها. وقال عطاء، كانت عطاء بن رباح قال: كانت أحسن الناس رأيا، ها كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت رضي الله عنها حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 للهجرة. Et donc, Abu Huraira, le deuxième rapporteur dans ce hadith, dans ce troisième hadith, nous avons vu sa biographie dans le deuxième hadith, hein, et il reste le troisième transmetteur qui est notre mère Aïcha radiyallahu anhu wa ardaha, Ummul Mu'minin, bintu Abi Bakr, Abdullah ibn Uthman ibn Amir, Taymi, le Quraysh Taymi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Aïcha est née au début de l'islam, et le prophète s'est marié avec elle à la Mecque, après la mort de Khadija radiyallahu anha, et avant son mariage avec Saouda. Alors que Aïcha, quand il y a eu l'acte de mariage pour Aïcha, il avait que 6 ans radiyallahu anha wa ardaha. Et le prophète alayhi salatu wasalam n'a eu de rapport avec qu'une fois à Médine, quand Aïcha atteint l'âge de 9 ans. Il faut savoir que l'âge de 9 ans de cette époque, c'est comme la femme de 18 ans, 20 ans maintenant, hein. On va croire que, hein. C'est pas un avant de nos jours, hein, qu'il faut lui enlever encore le biberon en avant. Et donc, à la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, Aïcha n'avait que 18 ans, radiyallahu anha wa ardaha. C'était une femme qui a beaucoup de mérite, et qui faisait beaucoup de bien, et elle était comblée d'une grande intelligence, et d'une compréhension saine, et de beaucoup de science. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit concernant Aïcha dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, les mérites de Aïcha par rapport aux autres femmes, c'est comme le mérite de Tharid par rapport au reste de la nourriture. Tharid, c'est une bonne nourriture, hein. Les Maghrébins la connaissent, hein. Et s'il est facile à digérer, facile à mâcher, ne demande pas beaucoup d'efforts. En plus, il est fortifiant. Certains hommes de science disent cette comparaison parce que Aïcha avait de la science, avait une compréhension saine, il était vif, il était digne d'un bon comportement, il avait un bon comportement, radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha radiyallahu anha, Ata a dit de Aïcha, il avait les meilleures opinions en général. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa arda, a dit, c'est-à-dire que chaque fois que les compagnons avaient un problème, ou ils avaient sur un sujet une confusion, il disait, radiyallahu anhu wa arda, chaque fois que nous avons sur un sujet des confusions, nous trouvons sa science chez Aïcha, radiyallahu anhu wa arda. Cela te prouve qu'il était un récipient de science, radiyallahu anha wa ardaha. C'était une montagne de science de son époque aussi. Aïcha n'est morte qu'après avoir propagé dans la communauté une grande science. Et elle est morte à Médine, radiyallahu anha wa ardaha, au long 58 de l'Hijr, pendant le mois de Ramadan de cette année. موضوع الحديث يقول الشيخ بيان حكم التقصير في الوضوء. Le sujet du hadith, c'est la clarification sur le statut de la négligence dans le don. وشرح الكلمات ويل مبتدا خبره للأعقاب وهي كلمة وعيد وتهديد وقيل واد في النار وقيل بمعنى عذاب. العقاب جمع عقب وهو العرقوب وآل للعهد، فالمراد بها العقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء من النار، أي نار الآخرة. والجار والمجرور بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للعقاب من النار لا من عذاب آخر. الشرح الإجمالي يقول رحمه الله، لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو. حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب بذلك لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. Et donc le sens général de ce hadith du Cheikh rahmatullah alayh, comme la purification est l'une des conditions importantes dans la prière, le fait d'être négligent et d'avoir des lacunes dans la purification, c'est une négligence et des lacunes dans la prière. Le prophète a averti contre la négligence dans la purification. Celui qui aura négligé un membre parmi les membres qui doivent être purifiés, ce membre sera châtié par le feu. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, malheur à ceux qui n'ont pas correctement lavé leurs talons pendant les ablutions. Ils seront châtiés par le feu ainsi que leurs talons. Et il a désigné, alayhi salatu wassalam, ici les talons, car c'est le membre qui a été négligé au moment où il a annoncé cet avertissement. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Passons maintenant à fawaid al-hadith. Awalan, wujubu sti'abi al-a'dha. Wujubu sti'abi a'dha'i al-wudu' bit-tathhir. Donc la première des leçons dans ce hadith, c'est l'obligation de compléter les membres par le lavage au moment de l'wudu' et au moment de la purification. C'est-à-dire que chaque membre du corps doit être lavé complètement. Hein? ثانيا الوعيد على من أخل بشيء من ذلك. Le deuxième enseignement, l'avertissement à tous ceux qui négligent de compléter le lavage des membres au moment de l'eau d'eau du ghusl. C'est un avertissement qu'il y a dans le hadith. ثالثا أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ إنه متوعد بالنار. ولهذا يعده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب. Troisième leçon, négliger une partie des membres de l'eau et du ghusl est considéré comme un péché capital. Pourquoi? Parce que l'avertissement, il en découle le châtiment avec le feu de l'enfer. Et les hommes de science disent, quand un acte, hein, quand découle d'un acte le châtiment, bah, c'est que le châtiment de l'enfer, c'est que c'est un péché capital. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et qu'il faut y faire très attention. Rabi'an, anna ghusl ar-rijlayn fi al-wudu' wajib idha kanat makshufatayn. La quatrième leçon, c'est qu'il est obligatoire de laver les pieds quand ils sont nus. Faut pas tout simplement essuyer sur les pieds nus comme font Rawafid. Hein? Là, une fois que les pieds sont nus, ils doivent être lavés. Sadisan, itbatu al-jaza'i 'ala al-a'mal wa anna al-jaza' min jins al-'amal. Hein, comme a dit Nutudan. Et cinquième leçon, la confirmation de la récompense par les actes. Et que la récompense découle de la nature de l'acte. Wa sabab al-hadith في رواية عبد الله بن عمر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول ويل للأعقاب من النار قالها مرتين أو ثلاث وأما سببه في حديث أبي هريرة فهو كما قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وعلى ماذا يحمل هذا؟ ليس هناك تناقض، هذه واقعة في سفر وواقعة أبو هريرة واقعة أخرى، ها؟ فما في تناقض في الكلام أبدا. La cause du hadith, ce hadith il a deux causes. Dans la version d'Abdullah ibn Amr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, les compagnons étaient en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'ils l'avaient devancé, le prophète les a rattrapés au moment de la prière de l'Asr. Ils ont commencé à faire l'eau d'eau et à essuyer leurs pieds. Le prophète a dit,
En élevant la voix, et il l'a répété deux fois, Wailu lil aqabi minan nar, Wailu lil aqabi minan nar, il l'a répété deux ou trois fois. Quant à la cause, dans la version d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda, comme il est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, que le prophète a vu un homme qui n'a pas lavé ses talons, et il a dit, Wailu lil aqabi minan nar. Les deux causes ne sont pas en contradiction, parce que ce sont deux situations qui sont différentes. Là-bas, c'était avec, ils étaient en voyage, et là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, a vu quelqu'un qui n'a pas perfectionné le dos, qui n'a pas complètement lavé ses pieds, qui a laissé les talons sans qu'ils soient lavés, et il a répété cet avertissement, salawatu rabbi wa salamu alayhi. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Le quatrième hadith, le hadith d'Abu Hurayra رضي الله عنه وارضاه. Le messager d'Allah a dit, lorsque l'un d'entre vous accomplit les ablutions, qu'il inspire de l'eau par son nez, puis qu'il la rejette, et que celui qui se torche avec des pierres, utilise un nombre impair. Et lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il se lave les mains trois fois avant de les introduire dans le récipient d'eau, car il ne sait pas où sa main a pu se poser durant son sommeil. Dans une version du muslim, qu'il inspire de l'eau par ses narines. Dans une autre version, que celui qui accomplit les ablutions inspire l'eau par le nez. يقول الشيخ رحمه الله موضوع الحديث بيان شيء من أنواع الطهارة. Et donc le sujet du hadith, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, c'est la clarification sur certains actes de purification. إذا شرح الكلمات إذا توضأ أي شرع في الوضوء فليجعل فليضع واللام هنا للأمر والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض ثم لينثثر ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه واللام هنا كذلك للأمر استجمر تمسح في قبله أو ذبوره بالجمار وهي الحصى الحجر ليزيل ما عليهما من أطر البول والغائط فليوتر فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء واللام هنا للأمر استيقظ أي انتبه من النوم فليغسل اللام للأمر والغسل التطهير بالماء يديه أي كفيه الإناء الوعاء والمراد هنا إناء الماء الذي يتوضأ به أو كل إناء فيه سائل من ماء أو غيره ثلاثا مفعول مطلق ليغسل أي ثلاث غسلات فإن أحدكم لا يدري لا يعلم والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثا باتت يده كانت حين نومه فليستنشق فليجدي بالماء بنفسه إلى باطن أنفه واللام للأمر بمنخريه بفم الميم بفتح الميم بمنخريه بفتح الميم والخاء وبفتح الميم وكسر الخاء وبضمهما جميعا هما ثقب أنفه ونأتي إلى الشرح الإجمالي يقول رحمه الله من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الأول في تكميل طهارة الوجه في الوضوء بأن يستنشق الماء أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك أنفه. الثاني في الاستجمار وهو التمسح في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطعه على وتر، فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن أنقى بأربع مسحات زاد خامسة، وهكذا ليكون منتهاه الوتر، كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر. الثالث في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من السائلات. أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا وبيّن حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده Donc, on vient au sens général du hadith. La législation musulmane est complète. Cela apparaît clairement dans l'importance donnée à la purification. La législation a englobé toute forme de purification et toute chose qui peut compléter la purification. Et dans le hadith, le prophète alayhi sallam oriente vers trois formes pour compléter la purification et les précautions donc qu'il faut prendre à ce niveau-là. Premièrement, dans le fait de compléter le lavage du visage, dans le dos, en inspirant l'eau par le nez et en le rejetant après pour purifier l'intérieur du nez. Et ça fait partie du fait de compléter son visage. Le lavage de son visage dans le dos, ça fait partie de ça, le fait d'inspirer l'eau dans les narines et de le rejeter par la suite. Deuxièmement, le fait de se torcher avec les pierres, qui est l'essuyage des parties intimes, devant et derrière, pour enlever les impuretés et les saletés. Et pour que l'essuyage soit complet, cela doit se faire par un nombre impair. C'est l'endroit et nettoyé avec trois pierres, khlas. S'il n'est pas nettoyé avec trois, on rajoute la quatrième. Et après, on rajoute la cinquième pour faire l'impair. Si on, il n'est pas nettoyé avec cinq, on rajoute la sixième. Mais on doit lui rajouter la septième pour être dans l'impair. Et ainsi de suite. Il faut que la fin de l'essuyage se fasse d'une façon impair, comme c'est le cas pour beaucoup de sujets dans la législation musulmane, où il est demandé de faire les choses impair. La troisième leçon concernant le lavage des mains au moment où on se réveille de son sommeil. Au moment où on se réveille de son sommeil, on les lave avant de les introduire dans le récipient d'eau, ou c'est similaire parmi les liquides. Le prophète a ordonné de les laver trois fois avant de les introduire dans le récipient. Et il a montré la sagesse et le but pour cela. C'est que celui qui dort ne sait pas où est passée sa main durant son sommeil. Regarde la noblesse de cette législation, vers quoi il t'oriente vers la pureté à tous les niveaux. Et de se débarrasser de toute forme de sueur. Et comment s'en débarrasser? C'est pour ça que ceci a été une fierté sur le noble compagnon d'Allah alayhi. Un jour, Salman, un associateur, est venu le voir, il lui a dit, votre prophète vous a appris tout, même comment, même le comportement de faire ses besoins. Et Salman, fier, il lui a dit, certes, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, au moment où vous allez faire votre besoin, ne vous orientez, ne faites pas face à la Qibla, ni ne lui donnez le dos. Et quand vous allez vous essuyer, faites-le avec trois pierres et ne touchez pas et n'utilisez pas ni l'os ni l'excrément d'animaux. Hein? Mais il l'a dit d'une façon à montrer sa fierté et à montrer comme quoi que ceci c'est un, c'est quelque chose de noble, ce que nous a appris le prophète alayhi salam. Ridwanullah alayhim, ils étaient fiers de la législation d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et regarde certains de nos contemporains, ces apprentis politiciens dans ce monde européen, dès qu'il s'agit d'une question qui est obligatoire dans la religion, tu vois qu'ils jouent au camélion et ils essaient d'esquiver. Et après, dès qu'il est obligatoire, ikhlas, pourquoi esquiver? Pourquoi cacher le soleil par un tamis alors que c'est clair? Tu joues à quoi? Tu veux plaire à qui? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous revenions à la biographie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alim pour les prendre en modèle. Et pour agir comme ils agissaient les droits d'Allah alayhim. Et donc, les enseignements de hadith, parmi les enseignements qu'il y a dans ce hadith, ومن فوائد الحديث طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء ومحله قبل غسل الوجه وهو من تمام غسله أي من تمام غسل الوجه فيكون فرضا كغسل الوجه. ثانيا طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه والواجب الإنقاء ولو نظف المكان بغير وتر لا بد أن توتر والإنقاء هو الواجب. طلب غسل كفي القائم من النوم ثلاث مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. رابعا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. سادسا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. Et donc parmi les enseignements du hadith, lors d'inspirer l'eau vers l'intérieur du nez et de la rejeter après dans le dos. Et ceci avant de laver le visage, et ça fait partie du lavage complet du visage, donc c'est une obligation comme le lavage du visage. L'inspiration, c'est une obligation comme le lavage du visage. Et il fait partie du fait de laver complètement le visage, parce que il fait partie de la face de la personne, le nez. Deuxième leçon, l'obligation de terminer le fait de se torcher par un chiffre impair, même s'il a pu nettoyer avec un chiffre pair, et aussi l'obligation du nettoyage. Le nettoyage est demandé. Maintenant, est-ce que quand on s'essuie, la trace disparaît complètement? Non. L'impureté, tu l'as fait disparaître, mais la trace, il peut toujours rester. Il peut toujours rester en essuyant. Mais ce qui est demandé, c'est le nettoyage. Khlas. Mais ça doit se faire, c'est un acte qui est demandé de se faire d'une façon impaire. Troisième leçon, l'obligation de laver les mains trois fois pour celui qui se réveille de son sommeil avant de les introduire dans le récipient d'eau. Et il en est de même pour tout autre liquide, similaire à l'eau. Quand on se réveille du sommeil, on n'y met pas la main parce que, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas mettre la main parce que celui qui dort, il ne sait pas où sa main a été posée durant la nuit. Quatrième leçon, le but de cela est le but de ne pas mettre la main directement dans le récipient quand on est réveillé de son sommeil. C'est que celui qui dort ne sait pas où est passée sa main durant son sommeil. Cinquième leçon, la bonne méthode éducatif du prophète alayhi salatu wassalam, qui lie le statut de l'acte avec son but et sa sagesse, pour que cela augmente la foi de celui qui est en âge d'accomplir les obligations, et que apparaisse aussi la noblesse et la perfection de cette législation complète. La sixième leçon dans ce hadith, c'est que ce hadith, comme d'autres, montre la perfection et la noblesse de cette législation qui est complète, qui a donné cette législation, qui a donné cette importance à la purification et au fait de prendre les précautions nécessaires concernant la purification. ونأتي إلى الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم Le cinquième hadith, le hadith selon Abu Hurayra radiyallahu anhu warda, le messager d'Allah a dit que l'un d'entre vous n'urine pas dans l'eau stagnante, puis il l'utilise pour se laver. Et dans une version de Muslim, que l'un d'entre vous ne se lave pas dans l'eau stagnante, alors qu'il est en état de grandes impuretés. C'est-à-dire qu'il est en état de janaba. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. فموضوع الحديث بيان حكم الماء حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. Le sujet du hadith, c'est la clarification sur le statut du fait d'uriner dans l'eau stagnante et puis d'y laver, de s'y laver de sa janaba et de l'impureté majeure. يقول الشيخ في شرح الكلمات لا يبولن لا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الدائم الثابت المستقر الذي لا يجري لا ينتقل من مكانه بالجريان وهو تفسير للدائم ثم يغتسل بضم اللام والجملة خبر لمحذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه وهو ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي ولمسلم أي في صحيح مسلم وهو حديث مستقل غير الأول لا يغتسل لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وهو جنب دو جنابة وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني والجملة في موضع نصب على الحال الشرح الإجمالي للشريعة الإسلامية عناية كبيرة بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤكدا عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء وربما يستعمل هذا البائن نفسه فيغتسل منه فكيف يبول بما سيكون طهورا له فيما بعد كما نهى صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة Et donc venons au sens général du hadith. La législation musulmane a donné une grande importance à la purification et au fait de s'éloigner de toutes les causes du mal. Tout ce qui va faire du mal. La législation demande à s'en éloigner. Dans ce hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, annonce que le prophète a interdit d'une façon qui confirme l'interdiction le fait d'uriner dans de l'eau stagnante. L'eau stagnante qui ne coule pas, car cela va la suer, il va immiscer des maladies contenues dans l'urine, et il fera du mal à ceux qui l'utiliseront par la suite. Et peut-être que celui qui a uriné dedans, lui-même va s'y laver, ou se lavera dedans. Alors, comment il urine dans une eau qu'il veut utiliser pour sa purification? Et le prophète, alayhi salam, interdit à celui qui a une impureté majeure, c'est-à-dire qui est en état de janaba, de se laver dans de l'eau stagnante, car ceci suira l'eau avec la saleté et les impuretés de la janaba. Wa fawa'id al-hadith, awwalan, النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والنهي للتحريم إن كان الناس يستعملون ذلك الماء وإلا فللكراهة والغائط كالبول بل أشد منه بل أشد. Et donc les enseignements à retenir du hadith, l'interdiction d'uriner dans de l'eau stagnante qui ne coule pas. L'interdiction est formelle si les gens utilisent cette eau. C'est une partie de l'eau que les gens utilisent. L'interdiction est formelle, dit Cheikh Rahmatullah. Sinon, il est détestable, hein, s'il n'est pas utilisé par les gens. Il est détestable d'y ruiner, hein. Et il est interdit encore plus d'y faire son grand besoin dans l'eau. Encore plus. L'interdiction est encore plus grande et plus grave. ثانيا جواز البول في الماء الذي يجري لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه لأنه يقذره عليه. Deuxième leçon, la permission d'uriner dans de l'eau qui coule, car l'urine va être emportée par l'eau, il ne restera pas sur place, il ne stagnera pas au fond, hein? Mais s'il y a quelqu'un plus bas qui utilise l'eau, il ne faut pas y ruiner car il va l'en dégoûter. Thalithan, النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس وإلا فللكراهة. Troisième leçon à retenir, l'interdiction de se laver de la janaba dans de l'eau stagnante, et l'interdiction est formelle, c'est il va souiller cette eau pour ceux qui l'utilisent. Sinon, hein, s'il y a personne qui utilise l'eau, bah ça passe, l'interdiction passe au niveau du détestable. Yaqulu rahimahullah, جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري. Et on prend aussi comme leçon dans ce hadith la permission de se laver de la janaba dans l'eau qui coule. الفائدة الخامسة كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. La cinquième leçon à retenir, cela montre que cette législation parfaite et parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, si on la médite, regarde comme il donne l'importance à la purification. Et comment il éloigne par ses enseignements de tout ce qui va être la cause du mal et tout ce qui va faire du mal à la personne ou aux autres. Et ça prouve la noblesse et la perfection de cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. والأمر السادس هنا كتنبيه يقول الشيخ ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل لكن النهي في القليل أوكد لأنه أسرع تلوثا وتغيرا والماء الكتيل جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه والله أعلم. Et Cheikh il dit, le sixième point qui est un rappel, il dit dans l'apparence du hadith, il n'y a pas de différence entre une grande quantité d'eau et une petite quantité, hein, concernant l'interdiction. Mais l'interdiction, il dit, devient encore plus forte quand l'eau est en petite quantité, l'eau stagnante est en petite quantité. Car très vite, cette eau va changer, va se polluer. Et la grande quantité, il dit, la grande quantité d'eau ne peut pas changer avec l'urine ou le fait de s'y laver comme l'eau des mers qui ne rentre pas dans l'interdiction. L'eau des mers ne rentre pas dans l'interdiction. Il dit, rahimahullah, quant à l'eau stagnante pour une période précise, comme les étangs dans les jardins, par exemple, ou ce que font les cultivateurs dans certaines régions, ils réunissent l'eau dans un étang qu'ils creusent. Il dit, rahmatullah alayh, quant à l'eau stagnante pour une période précise, comme l'eau des étangs dans les jardins, s'il va être souillé par l'urine, ou le fait de s'y laver, parce que c'est une petite quantité, et que l'eau ne se renouvelle pas souvent dans cet étang, dans ces cas-là, il est concerné par l'interdiction. Dans ces cas-là, il est concerné par l'interdiction. Il dit sinon, pour lui, rahmatullah alayh, il ne m'apparaît pas qu'il en soit concerné. Et il dit, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est. Et nous allons arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.